Bonjour à tous, bienvenue sur Bac FM, la radio qui percute. Aujourd'hui, je me présente, Thibaut Bazly, élève de terminale au lycée Jules Renard. Nous accueillons Monsieur Touchard, professeur de philosophie au lycée Jules Renard aussi, pour vous proposer à tous un petit jeu. Et si vous passiez une épreuve de philosophie ou du bac avec nous aujourd'hui? Imaginez, nous repartons en 2004, nous sommes installés, prêts à débuter, les sujets sont distribués et top, c'est le début de l'épreuve. Voici la question que l'on vous propose. Y a-t-il une connaissance rationnelle de ce qui change? Un sujet qui peut sembler complexe. Quel réflexe devons-nous avoir en premier face à un tel sujet?
Alors bonjour Thibaut, je suis très content de faire ce sujet ici avec vous et donc de remonter dans le temps justement, ce qui fait un petit changement pour nous. Alors on va développer plusieurs réflexes, on va essayer de retrouver plusieurs réflexes pour analyser un tel sujet. Le premier réflexe, je crois, c'est que si on a un sujet qui ne semble pas à première vue paradoxal, ce qui est le cas ici, il va falloir rechercher le problème. Au fond, je crois que dans une telle question, le problème n'est pas apparent. Donc il va falloir le construire, il va falloir se demander pourquoi on pose cette question. Il y a des sujets pour lesquels c'est plus évident, on voit qu'il y a d'emblée un problème. Ici, ce n'est pas le cas. Alors, pour y parvenir, il va falloir... Donc le premier réflexe était de se dire qu'il faut rechercher un problème, même s'il n'apparaît pas spontanément. Le deuxième, ça va être de s'interroger sur les termes qui sont en jeu. On a ici la notion de connaissance rationnelle. Il va falloir s'interroger sur ce concept, on pourrait dire, et le changement, ce qui change. Essayons du coup d'aller un peu plus loin, essayons de définir un peu ces termes. La notion de changement semble tout à fait banale, puisque nous sommes habitués au changement. Si on se demande qu'est-ce qui change, on pourrait dire tout ce qui nous entoure, toute la réalité matérielle qui nous entoure change plus ou moins rapidement, à des rythmes plus ou moins grands. Et puis, nous pourrions dire que nous aussi, nous changeons. Hein, nous faisons l'expérience d'un changement intérieur. Donc, nous faisons l'expérience du changement. Et c'est bien pourquoi, d'ailleurs, nous pourrions nous dire... après tout, pourquoi est-ce qu'il y aura un obstacle a priori à connaître ce changement? Puisqu'il nous entoure, nous sommes familiers du changement, pourquoi une connaissance rationnelle poserait problème après tout? Cela dit, je crois qu'il faut aller un tout petit peu plus loin sur cette notion de changement, puisque derrière ce mot, on peut vouloir dire beaucoup de choses différentes. D'habitude, c'est ce que je conseille d'habitude aux élèves, il vaut mieux éviter les références dans l'introduction, parce que toute référence à un auteur mérite normalement d'être développée. Mais je vais faire une exception, je ne vais pas respecter mon propre principe ici. Je vais utiliser ce que nous dit Aristote dans un ouvrage qui s'appelle « La métaphysique », puisqu'Aristote aide beaucoup à définir les termes. Et il nous propose, dans un passage de la métaphysique, une réflexion sur les sens du changement. Qu'est-ce qu'on peut appeler changement? Or lui-même, il appelle ça mouvement, mais kinésis, ce qui donnera le cinéma, la cinétique, etc. Alors... le changement, ça peut être le changement selon le lieu, ce qu'on appelle réellement le mouvement, le déplacement. Mais on aurait tort, sans doute, de réduire le changement au mouvement, nous dit Aristote. Le changement, c'est aussi le changement selon la quantité, par exemple. Il peut y avoir l'augmentation, la diminution de quelque chose. C'est du changement. On peut penser au changement selon la qualité. La qualité des choses peut changer sans pour autant que la chose elle-même change. Je prends un exemple, on peut penser au changement d'état de l'eau, par exemple, selon certaines températures. On peut observer, par exemple, que l'eau va passer d'un état solide à un état liquide, par exemple. L'eau en elle-même n'est pas modifiée, ça reste la même molécule. Pourtant, la qualité, on pourrait dire, l'état qualitatif change.
Donc, si je comprends bien, c'est en partie seulement les choses sensibles qui changent?
Alors, c'est une question justement qu'on va devoir se poser, mais effectivement, le changement, on le constate d'abord dans notre expérience des corps. Effectivement, que ce soit du point de vue du déplacement, un mouvement local, ça suppose bien la spatialité et donc effectivement l'aspect sensible, l'aspect physique des choses, la quantité aussi, la qualité, bon. Évidemment, quand on parle du sensible, on parle d'un changement encore plus radical, sans doute. Qui est la naissance des choses, leur apparition. Ce qu'Aristote appelle d'ailleurs Genesis, qui a donné la Genèse, par exemple. La naissance, le développement, et puis la mort, la décroissance, la mort. Donc, effectivement, c'est à propos du sensible, à propos des corps, qu'on peut parler de naissance et de mort, a priori. Alors, on a un premier tableau de ce qu'est le changement ici, en tout cas, une première organisation de cette notion. Alors, on a envie de se demander, dans ce cas-là, qu'est-ce qui pose problème par rapport à la connaissance rationnelle ? Alors, qu'est-ce qu'une connaissance rationnelle ? Il me semble qu'on peut définir cette notion à partir de deux caractères. Connaître rationnellement, c'est d'abord chercher à conceptualiser le changement, c'est-à-dire le définir, hein, chercher son essence, sa nature, c'est quoi changer. Alors là, on voit qu'il faut se demander c'est quoi du coup le mouvement, c'est quoi le changement de qualité, c'est quoi la naissance et la mort de quelque chose. Vous voyez, en fait, les questions se multiplient en fonction des différents sens du changement. Et puis, connaître rationnellement, c'est rechercher les lois, rechercher les principes du changement. Qu'est-ce qui fait qu'une chose change ? Qu'est-ce qui fait qu'un être sensible naît et meurt, se déplace ? Quels sont les principes, les lois du mouvement, etc. Alors, du coup, on s'aperçoit qu'au fond, les sciences ont bien pris ce problème à bras-le-corps, parce que la physique, qu'est-ce qu'elle fait sinon se demander quelles sont les lois du mouvement, par exemple, hein ? La biologie, qu'est-ce qu'elle fait sinon se demander quelles sont les lois du développement d'un être organique. J'ai envie de dire aussi la science historique, qu'est-ce qu'elle fait sinon se demander quels sont les principes du changement dans les sociétés humaines. Alors on pourrait rajouter peut-être l'économie, quels sont les principes des crises et de l'équilibre. Donc c'est bien des changements aussi. Bon, on pourrait rajouter d'autres sciences. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment vu le problème, puisqu'on constate qu'il y a des sciences qui pensent le changement. On a dit que le changement concernait les choses sensibles, ce sont celles qui nous entourent, qu'on observe en permanence. Mais alors, où est le problème, dans le fond ? Le problème, c'est que la connaissance rationnelle, elle a des exigences, on pourrait dire. On ne peut pas conceptualiser le changement et en penser les lois n'importe comment. Ça suppose, d'une part, une permanence. Connaître, c'est connaître quelque chose de manière permanente, fixe. La stabilité, c'est-à-dire qu'une connaissance authentique elle n'est pas valable un jour et elle ne fausse le lendemain. Il n'y a pas de changement dans la connaissance, dans la vérité, du coup, qui est recherchée. Sinon, ce n'est pas une connaissance authentique, tout simplement. Et rajoutons un autre critère, mais qui est lié, en fait, c'est le principe de la non-contradiction. Il faut qu'une connaissance soit cohérente. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'incohérence, oui, dans la manière d'établir les lois, ou tout simplement de conceptualiser la notion, de penser l'essence ici du changement. Et c'est là qu'on arrive au problème, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, on a la fixité de la connaissance, qui est exigée par la connaissance, et d'autre part, on a un objet qui est précisément le changement, c'est-à-dire ce qui évolue, ce qui est lié tout simplement au temps. On ne peut pas penser le changement sans le temps, précisément, sans la variation liée au temps, permise par le temps, sans ce qu'on peut appeler le devenir. Et donc, d'une part, on a une connaissance rationnelle qui exige de penser la fixité de ce qui est, de la réalité qui est. Et d'autre part, on a le changement qui est le contraire même de l'être. Alors, on pourrait dire, si on rentre un peu dans un cas un peu plus technique, on pourrait dire que le changement, c'est le passage de l'être au non-être, c'est-à-dire de ce qui est à ce qui n'est pas, ou de ce qui n'est pas à ce qui est, puisque, par exemple, on peut dire que l'eau en dessous de 0 degré Celsius, eh bien, elle n'est pas encore liquide, elle n'est pas liquide. Et au-dessus de 0 degré, eh bien, elle devient liquide. Elle devient ce qu'elle n'était pas. Donc, vous voyez, on pourrait dire un passage de l'être au non-être et du non-être à l'être. Alors, du coup, voilà le problème. Comment est-ce qu'on peut penser et comprendre, au moyen de concepts, de lois, qui prétendent, du coup, à l'éternité, à la stabilité ? Tout simplement ce qui est soumis à la variation, au devenir, ce qui semble précisément opposé à l'éternité, ce qui est pris dans le temps.
Donc, en fait, c'est qu'on a, si je comprends bien, on essaye de trouver... La connaissance rationnelle appelle à, comme par exemple, des lois en physique qui seraient universelles, qui ne changeraient jamais. Et le problème, c'est qu'on étudie quelque chose qui change en permanence.
Tout à fait.
Comme si on cherchait une loi sur un fleuve qui est en train de s'écouler, par exemple.
Tout à fait. Alors, vous faites référence à une phrase dont on va reparler juste après. Vous avez tout à fait raison. Oui, d'ailleurs, on en reparlera, bien sûr, mais dans le cas de la physique, on essaye de penser le mouvement, mais dans le cas de la biologie, on essaye de penser d'autres types de changements, justement, la naissance, la mort, la décroissance donc d'un être. Éventuellement, on peut penser à la chimie aussi, d'ailleurs, hein, qui essaye de penser la transformation à la fois qualitative des choses, des éléments, et leur transformation en d'autres éléments. Donc... Effectivement, voilà, il y a une sorte de contradiction entre le but de la science et son objet, en fait. On pourrait dire ça ainsi.
Et donc, une fois qu'on trouve cette contradiction dans notre sujet, quelle est l'étape suivante dans notre dissertation ?
Eh bien, l'étape suivante, c'est d'essayer d'envisager, du coup, des solutions, en fait, à ce problème. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler des thèses, tout simplement. Des tentatives de réponse. puisque un bon problème, c'est un problème qui contient plusieurs réponses possibles. Sinon, c'est une simple question. Un véritable problème philosophique, et c'est là sans doute la différence avec une question purement scientifique, elle exige qu'on envisage plusieurs réponses possibles. Du coup, je peux d'emblée un peu indiquer quel sera notre chemin ici. Il me semble que dans un premier temps, ce qui peut être utile, c'est de creuser un peu le problème, puisque là, on l'a esquissé, mais il me semble qu'on peut aller plus loin, puisqu'encore une fois, le problème n'est pas complètement apparent dans le sujet. On peut essayer de voir un peu les données du problème, en fait. Comment se constitue ce problème, cette contradiction entre le discours scientifique, le discours rationnel, et pas que scientifique d'ailleurs, le discours philosophique aussi, qu'on peut tenir sur la réalité, et cette réalité changeante, cette contradiction entre les deux. Donc je propose que dans un premier temps, nous creusions le problème d'une certaine manière, donc ça sera une première manière de répondre au problème, c'est-à-dire de voir que, de soutenir l'idée, d'aller jusqu'au bout de l'idée qu'il y a bien contradiction entre les deux. Donc on ira peut-être jusqu'à l'hypothèse que tout discours sur le changement ne peut être qu'un échec. On essaiera de voir cette hypothèse, au fond, de l'échec d'une connaissance rationnelle de ce qui change. Évidemment, on ne pourra pas s'en tenir que là, puisque il suffit de, comme on l'a dit dans l'introduction, il suffit de constater qu'il y a des sciences qui tentent bien de rendre compte du changement pour se dire qu'on ne peut pas en rester là. On ne pourra pas rester dans cet échec, dans cette impasse. Donc, il faudra qu'on se demande, au fond, est-ce que les sciences ne parviennent pas à dépasser cette mise en échec de tout discours rationnel sur le mouvement, dont on verra que c'est d'abord les philosophes qui ont mis en échec ce discours sur le changement. Parce que les sciences, elles, n'ont pas relevé le défi d'une certaine manière en disant on peut aller plus loin que cet interdit de parler du changement. Puisque, comme on l'a constaté, la physique, la biologie, les sciences historiques sont toutes intéressées au changement, justement. Alors, on se demandera quand même de quel changement parlent les sciences. Est-ce qu'on est bien d'accord sur le terme de changement ? Est-ce qu'elles pensent le changement comme tel ? Ou est-ce qu'elles ne sont pas obligées finalement de penser autre chose que le changement derrière ce mot ? C'est au fond la question qu'on se posera dans ce deuxième temps. Et dans le dernier temps, puisque on aura sans doute constaté que les sciences, peut-être que les sciences ne parviennent pas complètement à penser le changement réel, on essaiera de trouver une solution, ou plutôt on verra qu'il y a peut-être deux solutions irréconciliables pour connaître rationnellement le changement. Donc ça sera une dernière thèse. Un nouveau dépassement, finalement, de la thèse précédente. Donc, voyez, on va essayer de procéder par dépassement, comme ça, successifs. Trois thèses différentes, autant de dépassements successifs.
Juste avant de commencer la première partie, oui. Auriez-vous un petit conseil de méthode sur la façon de formuler ces problèmes et ces thèses dans son introduction ? Est-ce qu'on va plutôt poser des questions ou est-ce qu'on va plutôt exprimer ces thèses, puis dire qu'on va les traiter de manière simultanée ?
Alors, moi, ce que je conseille, c'est, souvent d'ailleurs, les copines le sont passées, c'est d'être dans la question, dans le questionnement. Alors, le grand danger, ça serait que la problématique répète le sujet. Finalement, qu'on ait une introduction qui nous dise à la fin, y a-t-il une connaissance rationnelle de ce qui change, ce qui est notre sujet, sans qu'on comprenne, en fait, où est le problème. Oui. Ça veut dire qu'en fait, on aurait manqué toute la phase d'analyse qu'on a faite, là, vous voyez. Donc, ce que je conseille, c'est d'élaborer des problèmes, c'est-à-dire des interrogations, qu'on comprenne comment vous êtes parvenu en fait à ces problèmes. Mais il faut que ces problèmes soient justifiés justement par votre analyse qui précède. Donc, il faut que dans votre analyse, on perçoive ces différentes thèses et qu'ensuite vous les formuliez sous la forme de problèmes, au fond, de questions, qui permettent d'annoncer votre plan en même temps, au fond. Alors, je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, une analyse qui permet d'énoncer les thèses et les problèmes qui permettent de les recueillir sous forme de questions.
D'accord, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Donc, juste avant de passer à la première partie, nous allons faire un petit intermède musical.
Time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker
I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
It's gonna have to be a different man. Now may change me, but I can't trace. Size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't tell them to grow up and out of it.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Where's your shame? Your left is up to her next to me.
Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination.
Bonjour à tous, à ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur BAC FM, la radio qui percute, avec Thibaut, élève de terminale, et Monsieur Touchard, notre invité aujourd'hui dans BAC Philo, pour résoudre une dissertation, dont le sujet est « Y a-t-il une connaissance rationnelle de ce qui change ?» Donc nous venions de finir l'introduction et d'annoncer notre chemin que nous allions parcourir, et donc nous allons commencer maintenant, j'imagine, avec la première partie.
Tout à fait. Alors, j'avais annoncé dans l'introduction que nous allions essayer de creuser le problème en examinant une première thèse qui est tout simplement que la connaissance rationnelle est mise en échec dès lors qu'elle cherche à penser le changement. Hein. Ce qu'on peut remarquer à première vue, c'est que ce problème se pose, hein, y a-t-il une connaissance rationnelle de ce qui change ? Ce problème se pose dès lors qu'on cherche à connaître la réalité, tout simplement. Et si on regarde les tout premiers penseurs, on s'aperçoit qu'ils se sont posés cette question eux-mêmes. Au fond, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'en posant cette question, on remonte à l'origine de la pensée elle-même, que ce soit d'ailleurs la philosophie ou la science, mais en fait, les deux notions sont exactement mêlées pour les tout premiers Grecs. On peut même remonter bien avant d'ailleurs la pensée scientifique rationnelle. Les récits mythiques, hein, si on pense à Homère, si on pense à Hésiode, par exemple, en Grèce, qu'est-ce qu'il écrit Hésiode ? Il écrit une théogonie, c'est-à-dire une naissance des dieux. C'est-à-dire comment l'univers apparaît, comment l'univers se forme, comment les dieux, les générations des dieux sont arrivées, etc. Donc on parle bien de changement, hein, on parle de naissance, on parle d'apparition, dès les premières épopées, les premiers poèmes mythiques. Bon. Les physiciens, ce qu'on peut appeler les physiciens, ceux qui s'intéressent à la physique, c'est-à-dire à la nature, hein, ce qu'on appelle les présocratiques, les philosophes présocratiques, se posent tous la question, au fond, de la nature des choses. Qu'est-ce qui existe vraiment ? Ce qui va m'intéresser ici, c'est quelques noms de penseurs qui, finalement, plutôt que d'essayer d'emblée de répondre à la question, bon, qu'est-ce que la nature des choses ? Alors, certains vont répondre, c'est l'eau, comme Thalès, bon, certains vont répondre, c'est le feu, etc. Certains penseurs vont se demander, d'abord, quel type de discours on peut tenir sur ce qui est ? Quel discours on peut tenir sur la réalité, sur l'être, pour utiliser un mot un peu technique, c'est ce qu'on appelle l'ontologie. Hein. c'est-à-dire logis, logos, un mot qui nous intéresse beaucoup ici, c'est-à-dire le discours rationnel, la raison. Et onto, c'est en grec, c'est le participe du verbe eimi, être, hein, donc le discours sur ce qui est. Hein. L'ontologie, c'est quel discours on peut tenir sur ce qui est. Donc au fond, c'est la question qu'on se pose ici, hein, quel discours rationnel on peut tenir sur la réalité. Alors, je vais m'appuyer sur un texte de Platon, qui est très intéressant ici, parce qu'il pose un peu toutes les données du problème, justement. C'est un extrait d'un dialogue de Platon qui s'appelle le Théétète, où il est notamment question de la connaissance, hein, d'une définition de la connaissance. On peut regarder du coup, on peut lire peut-être cet extrait d'abord, et j'en dirai un mot ensuite.
Donc je vais lire l'extrait. Donc c'est Socrate qui parle dans le Théétète de Platon. « Je m'en vais t'exposer une théorie qui ne manque pas d'intérêt. C'est, dit-on, qu'il n'y a rien qui soit individuellement lui-même et en lui-même. Rien non plus que tu puisses désigner à bon droit, pas davantage qualifié d'aucune façon que ce soit, que, au contraire, si tu attribues la qualité de grand à un objet, c'est aussi bien petit qu'il apparaîtra, et léger si tu le qualifies de lourd. Et ainsi de tout sans exception, attendu qu'il n'y a pas d'existence individuelle, pas d'existence ni d'un être, ni d'une qualification quelconque de cet être, mais c'est de la translation, du mouvement, du mélange réciproque que résulte tout ce dont nous disons qu'il est. Ce qui est une désignation incorrecte, car rien n'est jamais mais devient toujours. À cette conclusion, tous les doctes, sauf Parménide, ont été portés. Protagoras aussi bien qu'Héraclite et Empédocle, et dans chacun des deux genres de poésie, les poètes les plus éminents, Épicharme dans la comédie, dans la tragédie Homère, lui qui a dit « Océan, origine des dieux et Tétis leur mère », faisant ainsi de toute chose une progéniture de l'écoulement et du mouvement.
Ici, Socrate rapporte une théorie, comme il dit, une thèse, avec laquelle visiblement il n'est pas d'accord, hein, puisqu'on va, d'ailleurs on va essayer de comprendre pourquoi. Et il nous explique que cette thèse, elle est soutenue par tous les doctes, hein, tous les savants, sauf un, Parménide, nous dit-il. Il y a une sorte d'exception dans cette galerie de portraits ici que nous propose Platon, en fait, hein, par la voix de Socrate. Il y a un nom au milieu de tous ces noms qui importent peut-être plus que les autres, c'est Héraclite. Héraclite, qui est lui-même un penseur présocratique. Et vous citiez tout à l'heure hein, cette phrase selon laquelle on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Voilà un des fragments d'Héraclite, effectivement. Il y a un fragment qu'il dit encore de manière encore plus courte, hein, qui dit « tout coule, tout s'écoule hein, ». La totalité des choses s'écoule. « Panta rei » en grec, hein, c'est tout, « tout coule ». Donc encore cette image de ce qui est fluide, hein, du liquide. Et Héraclite, donc qu'est-ce qu'il pense ? Ben, je viens de le dire en un sens, c'est ce qu'on appelle d'habitude le mobilisme universel. C'est ainsi qu'on nomme la thèse d'Héraclite. C'est la thèse selon laquelle la réalité est en permanence dans le changement, prise dans le changement. Il n'y a pas de fixité dans la réalité. Alors pourquoi on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ? Ce qui paraît bien paradoxal, parce que on a bien l'impression de se baigner deux fois dans le même fleuve si on va au même endroit. Eh bien parce que tout simplement, le fleuve lui-même est fait d'une eau qui s'écoule en permanence, donc on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau exactement. On pourrait dire que les molécules d'eau qui composent le fleuve sont jamais les mêmes. Et puis, nous-mêmes, le corps qui se baigne n'est pas le même, lui-même a changé. Donc on pourrait dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas le même qui nous baignons dans le même fleuve. Hein. Donc, puisque celui qui se baigne et puisque l'eau dans laquelle cette personne se baigne sont différentes, nous ne pouvons pas dire au sens strict que nous nous baignons deux fois dans le même fleuve. Hein. Si nous le disons, c'est une forme d'erreur, on pourrait dire. Si on y croit, en tout cas, c'est une forme d'erreur. Hein. Ou alors c'est une facilité de langage, mais nous ne devrions pas le dire à proprement parler. Alors, Socrate nous dit, au fond, si tel est bien le cas, si nous sommes dans un mobilisme permanent, dans un écoulement permanent des choses, il n'y a rien, nous dit Socrate, hein, dans le texte que vous avez lu, il n'y a rien qui soit individuellement en lui-même et en lui-même. C'est-à-dire que rien ne reste identique à lui-même. C'est la notion d'identité qui est mise à mal. Nous-mêmes, nous n'avons pas d'identité, puisque nous sommes faits d'un corps qui change, nos pensées elles-mêmes changent d'ailleurs. Donc, tout est mouvant, tout est changeant. Je passe un peu sur les autres noms. D'ailleurs, ils ne sont pas tous à mettre sur le même plan. Il nous cite ici Protagoras. Alors Protagoras, j'en reparlerai un peu plus tard, c'est un sophiste. Alors je reparlerai du sophiste après parce que c'est très important pour le problème qui est posé ici. Empédocle, bon, c'est un autre physicien, on pourrait dire, un penseur présocratique. Donc là, je le mets de côté. Alors Épicharme, on voit que c'est un auteur de comédie. Et bien sûr Homère, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un poète, hein, un auteur d'épopée de poètes, et on considérait qu'Homère, les Grecs considéraient qu'Homère ne faisait pas que nous raconter des récits d'imagination, mais que au fond c'était un il nous disait la vérité sur le monde, hein, Homer comme Hésiode. Bon. Alors, on voit que au fond ils tous ici partageraient cette thèse sur la réalité que tout est changeant. Il y a une exception dans le texte, c'est Parménide. Alors, c'est qui ce Parménide? Eh bien, encore un autre penseur présocratique qui, on pourrait dire, s'oppose directement à ce que dit Héraclite ici, hein, c'est-à-dire le fait que tout change. Parménide, on pourrait dire, dans le premier texte de philosophie au sens propre, qui ne soit pas de la physique, hein, son but, c'est pas de parler de la nature des choses en elles-mêmes, c'est il réfléchit sur le discours sur l'être, encore une fois. Hein, c'est vraiment long, premier texte d'ontologie, ce qu'on appelle le poème, hein, le poème de Parménide. Et qu'est-ce que va dire Parménide dans ce poème? Eh bien, alors je le cite très rapidement, il dit « Il faut penser et dire ce qui est, car il y a être, et il n'y a pas de non-être. Voilà ce que je t'ordonne de proclamer. Je te détourne de cette voie de recherche où les mortels qui ne savent rien s'égarent incertains. L'impuissance de leur pensée conduit leur esprit errant. » Donc, un peu plus loin, il dit « Jamais tu ne feras que ce qui n'est pas soi. » Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Au fond, ce que nous dit Parménide, ça sonne d'ailleurs comme ce qu'on peut appeler une tautologie, hein. C'est-à-dire, il dit, au fond, il a l'air de dire la même chose. Il dit, seul l'être est. Il n'y a que l'être qui est. Ce qui n'est pas, n'est pas. Alors, bon, on a envie de dire, oui, c'est certain. Mais en fait, ça a une conséquence, c'est que, en disant ça, on s'interdit de dire que le changement est quelque chose. Et pour quelle raison on s'interdit ça? Eh bien, tout simplement parce qu'on a dit, dans l'introduction, que le changement, c'était le passage de l'être au non-être, ou du non-être à l'être. J'ai cité tout à l'heure le cas de l'eau, hein, du changement d'état, mais... Quand il y a un être organique qui naît, un être vivant qui naît, on peut bien dire qu'il passe du non-être à l'être. Et quand il meurt, il passe de l'être au non-être. Donc la naissance et la mort, c'est un mouvement qui mélange, on pourrait dire, l'être et le non-être. Il faut bien avoir l'idée de non-être. Il faut préférer d'ailleurs non-être à néant, parce que dans le néant, on a vraiment cette impression de... C'est quelque chose, justement. Le non-être, voilà, c'est ce qui n'est pas. Donc quand on pense la vie et la mort, quand on pense le changement de qualité... Qu'on pense le mouvement. D'ailleurs, c'est quoi le mouvement? Quand on dit qu'une chose, une voiture s'est déplacée d'un point A à un point B, on dit qu'elle est au point A et qu'elle n'est pas encore au point B, et quand elle est au point B, elle n'est plus au point A. Donc il y a bien un passage du non-être à l'être. Eh bien, qu'est-ce que nous dit Parménide? Il nous dit le changement n'existe pas, au fond. C'est une illusion. Puisque la seule chose qui y est, c'est l'être, et le non-être n'est pas. On ne peut pas penser le non-être. Alors, c'est très curieux ce que nous dit Parménide. Il nous dit, au fond, la réalité telle qu'on l'aperçoit, la réalité sensible qui est changeante, qui se modifie, eh bien, on ne peut pas la penser, elle est interdite. Hein. D'ailleurs, c'est la déesse, c'est une déesse qui parle dans le poème, qui dit au philosophe, tu ne dois pas penser cela, hein, tu ne dois pas penser le changement. Le changement est impensable. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de l'être? Ben, en fait, rien. On ne peut rien dire, sinon qu'il est. Hein. C'est la seule chose qu'on puisse dire. Parce que le problème, c'est que dès lors qu'on dit quelque chose de l'être autre chose qu'il n'est, eh bien, par exemple, si je commence à donner des qualités à l'être, à dire que l'être est grand, que l'être, je sais pas, on pourrait dire que l'être est immense, que l'être, bon, eh bien, forcément, on est en train de dire qu'elle n'est pas autre chose. Si l'être est grand, il n'est pas petit. Oui. Dès lors qu'on qualifie quelque chose, forcément, il y a du non-être. Il n'est pas le reste. Donc, en fait, je peux pas qualifier les choses. Je peux pas qualifier l'être. La seule chose que je peux dire de l'être, c'est qu'il est. Voilà. Voilà ce que nous dit Parménide, qui inaugure en quelque sorte la philosophie.
D'après Parménide, la connaissance se limite à dire que quelque chose est ou quelque chose n'est pas, mais oui. On ne peut rien avoir de plus dans le domaine de la connaissance.
Exactement. Donc, c'est une connaissance minimale qui interdit d'emblée la physique, en fait, hein, qui interdit tout discours sur l'être, sur la réalité sensible. Le sensible, la réalité changeante du sensible. Ce que nous dit, ce dont nous parle Héraclite, hein, ce changement permanent, est impensable. Et s'il est impensable, alors c'est là qu'on est au cœur de notre sujet, s'il est impensable, si on ne peut pas en avoir une connaissance rationnelle, alors il n'existe pas ce changement. C'est la thèse radicale que propose Parménide. Alors, il n'existe pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, c'est une illusion. Dès lors que l'on pense qu'il y a du changement, on s'illusionne, on est illusionné par nos sens. On est illusionné par notre rapport à cette réalité sensible, mais qui est au fond, oui, qui nous trompe, hein, qui n'est qu'une image fausse de ce qui est réellement. L'être réel, alors aussi on pourrait dire éventuellement qu'il est immobile, voyez, qu'il ne change pas, voilà, c'est la seule chose qu'on puisse dire de l'être. Donc c'est effectivement un discours extrêmement fermé, il n'y a pas grand chose à dire une fois qu'on a dit ça. Une fois qu'on a dit le poème de Parménide, il n'y a plus rien à dire au fond. Parce que dès qu'on parle, on fait référence à du non-être, à du changement, et donc, du coup, on est dans le faux. C'est une condamnation très sévère de tout discours. On va aller un peu vite là-dessus, mais je signale ici simplement que il y a des paradoxes très célèbres dans la philosophie. Ce sont les paradoxes de Zénon qui vous intéressent tout particulièrement, notamment le célèbre paradoxe d'Achille et de la tortue. En deux mots, qu'est-ce que dit Zénon ? Eh bien, il nous dit que ce héros grec Achille qui court extrêmement vite et une tortue, dès lors que dans cette course entre ces deux êtres, dès lors qu'on donne une petite avance, même la moindre avance d'ailleurs, à la tortue, Achille ne peut pas rattraper la tortue. Pourquoi ? Eh bien parce que, peut-être d'ailleurs vous voulez compléter, je sais que ce problème vous intéresse beaucoup.
Je vous en prie, allez-y.
Dès lors que Achille aura rattrapé la position de la tortue pendant le même laps de temps aura elle-même accompli une certaine distance, et donc Achille ne sera pas au même point que la tortue. Et dès lors qu'il va rattraper cette deuxième position de la tortue, eh bien la tortue aura de nouveau avancé. Alors certes, les distances sont de plus en plus petites, elles tendent vers l'infini, elles sont vers le rien, le zéro. Mais néanmoins, Achille ne pourra jamais parcourir la distance même infiniment petite qui le sépare de la tortue. Alors évidemment, voilà, Zénon nous dit quand on pense le mouvement, quand on pense, on essaye de le connaître rationnellement. Au fond, Achille ne peut pas rattraper la tortue. Or, dans la réalité sensible, on sait bien qu'Achille va dépasser la tortue, qui va, même en lui donnant une avance de 100 mètres, si on veut, on sait bien qu'Achille va finir par rattraper assez rapidement la tortue. Hein, il court beaucoup plus vite. Donc, vous voyez, il y a une contradiction entre ce qu'on perçoit, la réalité du mouvement qu'on perçoit, et la connaissance rationnelle qu'on peut en avoir. Il y a une contradiction. Alors, pourquoi Zénon nous intéresse ? Parce que, tout simplement, c'était l'élève, sans doute, de Parménide. Et donc, en montrant ce paradoxe, on pense qu'il démontrait la thèse de Parménide sur laquelle ce qui n'est pas, ce qui est changeant, donc, n'est pas pensable. On tombe dans des contradictions dès qu'on cherche à penser le changement. Alors, je vais simplement, pour conclure cette première partie, indiquer que Platon va essayer de dépasser cette opposition frontale entre Héraclite et Parménide. Platon, au fond, est parménidien. C'est-à-dire qu'il va considérer que le sensible, c'est ce qui change, et on ne peut pas, du coup, en tirer la moindre connaissance. Du coup, la connaissance, il faudra la chercher ailleurs que dans le sensible, pour Platon. Donc, là, je ne vais pas la développer, ce serait immense, mais c'est ce qu'on appelle les idées. Hein. On peut connaître l'essence des choses, l'essence intelligible des choses, mais dès lors qu'on est dans le sensible, dans les corps, il y a du changement, et donc c'est impensable. Alors, par contre, d'une certaine manière, il va falloir quand même dépasser Parménide, parce que il faut bien qu'on puisse parler, malgré tout, de ses essences, qu'on puisse parler de ce qui est grand, de ce qui est petit, de ce qui est juste, de ce qui est injuste, etc. Donc, il va falloir aller plus loin que l'interdit parménidien de parler que de l'être lui-même uniquement. Mais on peut dire que Platon, c'est l'héritier quand même de Parménide, de ce point de vue-là. Le sensible va être condamné, on pourrait dire, au nom de la permanence de l'intelligible. Ce qu'on peut penser réellement, ce qu'on peut connaître rationnellement, c'est ce qui demeure toujours la même chose.
D'accord, merci beaucoup. Un petit intermède musical avant de commencer notre deuxième grande partie et nous poser la question justement de la connaissance scientifique du changement et de ses limites.
Got white skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm wild dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now I'm expecting all hell. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood. Just for a second there I thought I saw something move.
Gonna take dancing lessons, do the jitterbug rag. Ain't no shiny cuts, gonna dress in drag. Only a fool here would think he's got anything to prove. Lot of water under the bridge, lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. I've been walking 40 miles, a bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. I just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in the lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
Dissertation sur Bac FM, la radio qui percute. Aujourd'hui, nous nous posons la question, y a-t-il une connaissance rationnelle de ce qui change, avec notre invité Monsieur Touchard, professeur de philosophie au lycée Jules Renard. Nous venons de terminer notre première partie après avoir bien analysé notre sujet et essayé de comprendre bien les problèmes qui se posent. Nous allons accélérer un petit peu pour les deux parties suivantes afin de pouvoir vous montrer différentes solutions à ce problème-là.
Oui, l'important c'était de, effectivement, c'est pour ça qu'on a pris le temps ici, hein, de poser le problème, de voir les termes du problème. Maintenant, on peut essayer d'avancer un peu plus rapidement dans notre développement. Alors, on est arrivé à notre impasse, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir de connaissance rationnelle du changement. C'était Parménide, et on peut dire que Platon prolonge cela. La seule pensée, c'est la pensée de ce qui est éternel. Au fond, voilà, ce qu'on peut penser, ce qu'on peut connaître rationnellement, c'est ce qui est éternel. Alors, on a évidemment envie ici de répondre, et ça sera l'objet du coup de notre deuxième temps, oui mais les sciences, qu'est-ce qu'elles font les sciences sinon penser le changement, sinon connaître le changement? Qu'est-ce qu'une loi de physique sinon une pensée du changement justement? Quand on pense, je sais pas, on peut penser aux lois de Newton par exemple, hein, qu'est-ce qu'elles font sinon penser, essayer de penser le mouvement local justement, le mouvement de déplacement des corps. Alors, je vais parler plus spécifiquement de la physique ici, mais dans un deuxième temps de notre grand 2, j'évoquerai les autres sciences, hein, pour pas les laisser de côté. Je parle de la physique parce que c'est d'abord celle qui s'est intéressée au mouvement. Historiquement, c'est dès la Grèce ancienne, c'est la science du mouvement, du changement donc. Alors, on a dit dans notre introduction que la physique, qu'est-ce qu'elle cherche à faire ? Elle cherche à penser le mouvement à travers des lois. Hein. Ce qu'elle cherche à faire, c'est concevoir des lois qui sont en elles-mêmes immuables. Les lois elles-mêmes, elles sont immuables, elles ne sont pas censées changer. Elles sont éternelles, hein, ces lois. Ce qui n'est pas éternel, c'est les objets qui changent eux-mêmes, c'est les objets qui se déplacent. Donc on peut dire que la physique va tenter, et je pense à la physique moderne, celle qui naît avec Galilée, puis Descartes, Newton, bon. On peut dire que la physique, elle va chercher à concilier l'exigence d'éternité, d'immuabilité, les lois, elles sont immuables, et le fait de penser des choses qui sont prises dans le changement. Mais alors, en fait, c'est là qu'on peut d'emblée se poser une question. Quel est ce changement que pense, ce mouvement en particulier, que pense la physique ? Qu'est-ce qu'elle met derrière ce terme de mouvement ? Puisque, en fond, on vient de le dire hein, dans la manière de présenter les choses, c'est que la loi, elle s'applique à n'importe quel mobile, à n'importe quel corps qui est en déplacement. Elle s'intéresse pas au changement, au déplacement de ce mobile précis, singulier ou particulier. Elle s'intéresse au déplacement en général. Alors, il y a un auteur qui nous aide à penser quand même, à penser cette notion de mouvement, et en particulier le mouvement tel que la physique moderne le pense, c'est Bergson. Bergson, hein, qui est un auteur du début du XXe siècle,
un philosophe français.
Philosophe français, tout à fait, hein, du début du XXe siècle, qui essaye de penser la notion de temps, hein, ce qu'il appelle lui plus proprement la durée. Et au fond, c'est ce qui traverse toute son œuvre. Et on peut s'arrêter sur son œuvre qui s'appelle « L'évolution créatrice ». Alors, vous voyez, ne serait-ce que ce titre est intéressant pour nous, puisque quand on parle d'évolution, on pense à Darwin, etc. Et Bergson pensait bien à ça aussi, à l'évolution du vivant. Mais on pense du coup profondément à la notion de changement. Et il y ajoute la notion de création. Alors, on y reviendra à cette expression « évolution créatrice ». Mais qu'en est-il de la physique pour Bergson ? Eh bien, Bergson nous dit que, au fond, qu'est-ce que fait la physique, la science ? Alors, je cite Bergson ici, elle considère des moments, toujours des stations virtuelles, toujours en somme des immobilités. C'est-à-dire que le temps réel, envisagé comme un flux, ou en d'autres termes comme la mobilité même de l'être, échappe ici aux prises de la connaissance scientifique. Alors, vous voyez, à peine on a dit que la science pensait bien le changement, on lui ôte aussitôt la notion de changement, au fond, hein, la pensée du changement. Puisque ce que nous dit Bergson, c'est que, en fait, le physicien, lorsqu'il pense le changement, et en fait, lorsqu'il pense le temps qui est supposé par le changement, il fige les choses. Il fige les choses, il se représente, on pourrait dire, spatialement les choses. Hein, il est comme sur un graphique, le temps est représenté graphiquement comme un segment, hein, et comme une succession d'instants indivisibles qui se succèdent, hein, de moments figés qui se succèdent. Si on pense à la trajectoire d'un mobile, eh bien, on pensera cette trajectoire selon une succession de positions du mobile. Hein. À T1, le mobile est à tel endroit, à T2, le mobile est à tel autre endroit, à T3, etc. Et au fond, on peut dire que quand on parle du mouvement, en fait, c'est quand on essaie de reconstituer dans notre esprit la succession de ces instants. Mais au fond, ça n'est que l'addition, la somme de tous ces instants. Alors Bergson utilise un terme qui est intéressant pour ça, on est à la naissance du cinéma, on est en 1907 hein, quand il écrit l'évolution créatrice, et comme c'est un grand penseur, un grand créateur de concepts Bergson, il va récupérer cette notion de cinéma, il va dire que c'est le mécanisme cinématographique de la pensée. Pourquoi il dit ça ? Eh bien il dit, c'est un exemple qu'il prend dans l'évolution créatrice, si vous voulez filmer quelque chose, par exemple il pense à une marche militaire, bon, peu importe ce qu'on filme, un défilé. Qu'est-ce que vous faites quand vous filmez ? Eh bien, vous prenez des instantanés, vous prenez des photographies extrêmement rapprochées les unes des autres, et vous les mettez en mouvement grâce au mécanisme de l'appareil. Et ce qui donne du coup l'impression d'un film, l'impression du mouvement. Mais au fond, le film, il est fait justement de plein de photographies qui figent à chaque fois. Et c'est chaque instant extrêmement proche qui est à chaque fois pris en photo. Personne rajoute, oui, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a bien du mouvement quelque part, c'est le mouvement de la machine elle-même qui met en mouvement le film. Et on oublie ce mouvement-là. Il y a bien du mouvement quelque part. Mais au fond, quand on pense le mouvement, quand le physicien pense le mouvement, il procède de manière cinématographique, c'est-à-dire qu'il fait comme s'il y avait plein de photographies du mobile, hein, T1, T2, T3, etc. On peut peut dire à chaque centième de seconde si on veut, chaque dixième, peu importe au fond. Hein. Et au fond, on se fait se succéder ces instants les uns après les autres. Voyez.
Donc ce serait comme une espèce de gros stop motion, comme pour des dessins animés.
C'est ça, exactement. Exactement. Et donc, alors, Bergson se dit, au fond, là aussi, lorsqu'on pense le changement ainsi, on ne pense pas le changement réel. On ne pense pas, justement, ce qui fait l'unité du changement, ce qui fait l'unité du mouvement. C'est-à-dire le reproche qu'il fait aussi à Zénon. Hein, quand on dit qu'Achille ne rattrape pas la tortue, c'est qu'on oublie l'unité du mouvement lui-même. Hein. Achille, c'est pas un mouvement où il se rapproche de la tortue dans sa position 1, puis ensuite dans la position 2, etc. Le mouvement, il n'est pas découpé de cette manière-là. Un mouvement, c'est un tout. Hein. C'est un flux, comme dit Bergson. Alors, je peux lire un autre extrait rapidement. Hein. Ce qui importe aux physiciens, c'est le nombre d'unités de durée que le processus remplit. Il n'a pas à s'inquiéter des unités elles-mêmes, et c'est pourquoi les états successifs du monde pourraient être déployés d'un seul coup dans l'espace, sans que sa science en fût changée, sans qu'il cessât de parler du temps. Mais pour nous, être conscients, ce sont les unités qui importent, car nous ne comptons pas des extrémités d'intervalles, nous sentons et vivons, les intervalles eux-mêmes. Alors, autrement dit, au fond, les lois du mouvement proposées par le physicien seraient exactement les mêmes, ne changeraient pas, même si le flux du monde allait beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement, ça serait exactement les mêmes lois. Ce qui montre bien qu'au fond, le physicien, et c'est pas un reproche que fait Bergson, c'est normal, le physique fait ainsi, la connaissance rationnelle procède ainsi, n'a pas besoin de penser le temps réel, l'épaisseur du temps, l'épaisseur de la durée. Ce que Bergson dit, c'est que, par exemple, c'est son exemple favori, un de ses exemples favoris, quand on fait fondre du sucre dans de l'eau, apparemment il fait souvent fondre du sucre dans de l'eau, eh bien, on attend un certain temps, et on peut, ce temps il est incompressible, on peut pas l'accélérer ou le freiner, ce qui montre bien que le temps, la durée, a une existence réelle, a une épaisseur, hein, c'est pas le temps du physicien qu'on peut allonger, qu'on peut étirer, ou au contraire rétrécir à volonté. Donc en fait, tout ça, on en vient à cette conclusion, c'est que au fond le temps du physicien n'existe n'existe pas comme durée, n'existe pas comme durée véritable. Ce n'est qu'une fiction. Donc voyez, au fond, on en vient tout de suite à dire que il n'y a pas d'approche rationnelle du changement en tant que tel. Pour penser le changement, on est obligé de le transformer en autre chose, et on est obligé de le transformer dans de l'espace en fait. C'est le temps, on l'imagine comme de l'espace. Alors, on pourrait dire, au fond, le problème se pose aussi pour la biologie. Hein, quand on pense des étapes d'un processus, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fiche des moments du processus, et au lieu de penser le mouvement lui-même, le changement en lui-même. Quand on pense, on pourrait parler de l'historien aussi. L'historien, il s'intéresse à des moments précis, à des événements précis. Il fige en quelque sorte certains moments. C'est pas l'historicité en elle-même qui intéresse l'historien. Et encore une fois, c'est pas du tout une critique. Du tout. C'est comme ça. L'historien ne peut pas penser le mouvement lui-même. Sinon, il fait plus œuvre d'historien. Il fait œuvre de philosophe, on pourrait dire.
Donc, on arriverait encore dans une espèce d'impasse où est-ce que la science ne permet pas non plus de comprendre le changement?
Voilà, on pourrait dire ça si on suit Bergson ici. Je crois qu'on peut le suivre ici, effectivement. Nouvelle impasse. La philosophie nous l'empêchait au début. C'était Parménide, d'une certaine manière, et Platon. La science, nous dit Bergson, ne pense pas le changement réel. Alors, très rapidement, comment est-ce qu'on peut dépasser cela? Le troisième partie, c'est une partie de dépassement. Peut-être ce que je proposerais ici, c'est de revenir à la philosophie. Et c'est Bergson qui nous indique la voie ici, justement. Hein. Puisque si Bergson nous dit que la science ne peut pas penser le changement, au fond, il soutient, lui, que la philosophie le peut. Hein. Et qu'au fond, Parménide a tort de nous interdire. On peut penser le changement lui-même. Seulement, en fait, il faut sans doute renoncer à la rationalité purement scientifique, hein, qui, elle, va forcément figer le changement. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que propose Bergson? Il propose de penser le changement par ce qu'il appelle l'intuition. Au fond, c'est une autre faculté qu'on a en nous, l'intuition. Et tout simplement, cette intuition, elle nous permet quoi? Elle nous permet de plonger en nous-mêmes, en quelque sorte, et de retrouver le changement qui est présent en nous. Nous disions hein, dans l'introduction que nous-mêmes, nous sommes changeants. Et bien, ce changement, nous sommes au contact de ce changement en permanence. Il faut essayer de retrouver ce contact avec le changement, en fait, en quelque sorte. Dès lors qu'on est dans la pensée rationnelle, on met à distance le changement et on le fige. Donc on pense le contraire du changement. Au contraire, là, il faut aller au plus près de ce changement. Alors, je lis un petit passage d'un texte qui s'appelle L'intuition philosophique. C'est dans un recueil qui s'appelle La pensée, le mouvant. Alors, ce que dit Bergson, c'est ceci. La matière et la vie qui remplissent le monde sont aussi bien en nous. Les forces qui travaillent en toutes choses, nous les sentons en nous. Quelle que soit l'essence intime de ce qui est et de ce qui se fait, nous en sommes. Descendons alors à l'intérieur de nous-mêmes. Plus profond sera le point que nous aurons touché, plus forte sera la poussée qui nous renverra à la surface. L'intuition philosophique est ce contact, la philosophie est cet élan. Ramenés au dehors par une impulsion venue du fond, nous rejoindrons la science au fur et à mesure que notre pensée s'épanouira en s'éparpillant. Donc au fond, il peut y avoir une pensée philosophique du changement, c'est ce que soutient Bergson ici, mais il faudra renoncer à l'idée d'une connaissance rationnelle du changement au sens d'une tentative pour en penser les lois, pour en penser comme le physicien, au fond, les principes, puisque, encore une fois, nous serons toujours conduits à figer le mouvement si nous faisons ça. Donc, en fait, il y a une solution dans la philosophie. En nous, nous avons une solution, une autre faculté qui nous le permet. Mais c'est sans doute pas au sens de l'entendement classique, hein, de la pensée classique, qu'il faut trouver la solution.
D'accord, merci beaucoup, Monsieur Touchard.
Je vous en prie. Merci à vous.
C'était Bac Philo. Nous étions en 2004 et nous allons du coup revenir en 2021 après cette réflexion sur le temps. Merci à vous. Bonne fin de journée sur Bac FM.
Bonne fin de journée à tous.